La chronique LNH d'Antoine Roussel. Une présentation des cliniques interphysio de Jonquière, Arvida, Chicoutimi, l'Abbaye Saint-Honoré et La Terrière. Partout dans la région et sur le web. Interphysio.ca.
Chronique hockey. Avec le plus saguenéen des joueurs de la LNH. Antoine Roussel. Dans Midi Pile.
À 11h21, on a déjà vécu un chroniqueur qui nous avait fait une chronique en train de se faire tatouer. Maintenant, est-ce qu'on vivra une chronique où un chroniqueur est en train de se faire tester en direct à la radio? Salut Antoine Roussel.
Salut, ça va, c'est fini, c'est tellement pratiquement, c'est tellement bien fait les tests ici. Écoute, j'arrive, je m'assois, puis écoute, je suis déjà reparti, là, ça n'a même pas pris 30 secondes.
Bon, mais tant mieux. D'ailleurs, parlons-en parce qu'il y a plusieurs joueurs des Coyotes et même l'entraîneur-chef qui a été soumis au protocole. Vous ne faites pas exception aux autres équipes sportives là, qui sont pognées avec ces casse-têtes-là. Hein?
Non, absolument pas. Puis écoute, hier, on a joué un match avec à peu près 5 défenseurs ou 4 défenseurs de la Ligue américaine qui sont venus pallier tous nos défenseurs qui sont tombés au combat dû à la COVID. Puis écoute, on a quand même bien fait. On a battu Toronto hier soir 2-1 à domicile. Puis, écoute, c'est une victoire de manière défensive, je te dirais. On s'est fait surshooter, mais on a été capable, malgré la COVID, tu sais, d'offrir quand même une performance correcte puis de partir avec la victoire. Donc, c'était le fun.
D'ailleurs, on se mentira pas. Je sais que vous aimeriez être plus haut dans le classement, mais vous saviez que vous étiez un peu en reconstruction avec énormément de nouveaux joueurs, énormément de jeunes. Tu sais, une des choses que RDS titre aujourd'hui, c'est qu'avec votre victoire, au moins, vous quittez le 32e rang, puis vous passez par-dessus le Canadien que vous allez affronter bientôt. Donc, appelons ça non seulement une victoire, mais aussi une victoire morale.
Il y a des petites victoires dans la vie qui font toujours du bien. Hein? Ça en fait partie.
Dis-moi, tu parlais des joueurs de la Ligue américaine qui faisaient partie de votre équipe. Puis je lisais ce matin un texte dans la presse sur Charles Hudon, l'ancien du Canadien de Montréal, l'ancien capitaine des Saguenay de Chicoutimi, qui s'est retrouvé dans les derniers mois à jouer en Suisse, là, tente un retour en Amérique du Nord avec l'organisation du Lightning de Tampa Bay, est à Syracuse dans la Ligue américaine. C'est pas trop s'il va avoir un rappel. C'est pas évident parce que au moment où il aurait pu être appelé, lui aussi a pogné la COVID. C'est des parcours qui sont pas faciles. T'sais, toi, tu es dans la Ligue nationale établie depuis plusieurs années, mais Charles Hudon, là, est rendu dans un moment dans sa carrière qui se pose la question, Ligue américaine, Europe. Est-ce que la ligne entre la Ligue américaine et justement la Ligue nationale, c'est quoi l'épaisseur de cette fameuse ligne-là pour se dire qu'un gars comme Charles Hudon vivote entre les deux?
Ben, ça dépend de ta situation, ton identité en tant que joueur de hockey qui détermine un petit peu si t'es capable de passer cette étape-là. Moi, je pense que souvent, quand t'arrives à t'établir dans une nationale pendant une couple d'années, ben, après ça, tu peux étirer ta carrière plus longtemps. Le plus difficile, c'est vraiment de s'établir. Puis, Charles était en voie de s'établir. Puis, malheureusement, l'année où il devait avoir une grosse année, pour un peu confirmer sa place, parce que je pense qu'il y avait une bonne saison. Je pense qu'il y avait eu 31 points, dans une saison complète. Puis, il y avait une 12-13 buts, quelque chose de même. Puis écoute, l'été suivant, puis l'année d'après, malheureusement, il n'a pas été capable de répéter ça, d'avoir un bon camp d'entraînement, puis de garder la confiance du coach. Puis ben, après ça, ben ça va moins bien. Puis du fait que tu t'établis pas, tu essaies avec une autre organisation, puis c'est plus difficile. Fait que pour revenir à ta question au niveau de la ligne, des fois, c'est juste une petite différence. Écoute, on a un gars ici cette année, là. Un défenseur, Dyson Mayo, qui, il a commencé l'année, il n'était pas supposé faire l'équipe. Il s'est fait rappeler dans les premières journées parce qu'il y a un gars qui s'est blessé. Puis, il a marqué à son premier match. Puis après ça, ça fait en sorte que, on va lui donner notre chance. Là. Il a marqué à son premier match. Ouais. Puis ainsi de suite, il s'est bâti une confiance. Puis maintenant, écoute, il joue au-dessus de 20 minutes par match. Puis, écoute, c'est sûr qu'on est les Coyotes. Puis, on n'a pas une équipe de premier plan. Mais c'est un petit peu de cette manière-là que tu arrives à construire une carrière. Et puis, ça prend un peu de chance. Puis, comme on dit, un timing qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu es un petit peu sur la loupe, ben, tu arrives à offrir une bonne performance, puis à marquer des buts, puis faire une différence, puis ainsi de suite. T'sais. Comme moi, par exemple, j'avais marqué à mon premier match en Ligue nationale, ben, ça m'avait donné 2-3 matchs supplémentaires. Mm-hmm. Puis dans mes 2-3 autres matchs, je m'étais battu contre Jarome Iginla. Ça, ce combat-là, ça m'avait donné 3 autres matchs, puis ainsi de suite. Puis au fur et à mesure, ben, la, la boule continue de rouler, puis t'es capable d'essayer de t'établir, puis ces premières années-là dans ta carrière sont tellement névralgiques, écoute, c'est important. Puis maintenant, ben, t'arrives dans la période, de fin de carrière, puis écoute, tu sais, j'en côtoie des gars qui s'accrochent à la ligue, là, en ce moment, tu sais, puis j'en fais partie, là, tu sais, des Andrew Ladd, Lou Eriksson. Andrew Ladd, il était dans la Ligue américaine l'année passée. Puis là, tu sais, lui, il va aller chercher son 1000e match dans la Ligue nationale, tu sais, peu importe de quelque manière. Puis, tu sais, il m'a donné un livre, pas plus tard qu'il y a deux jours. Puis, le livre, ça s'appelle Never Give Up. Ben, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, l'attitude quand t'arrives au début dans ta carrière, mais aussi à la fin, qui fait en sorte que t'es capable d'avoir une longue carrière, c'est que t'abandonnes pas, puis que, tu sais, tu prends jamais rien pour acquis, tu sais. Faut toujours que t'entretiennes ton feu, puis ça a l'air de rien, mais tu sais, faut juste pas que tu pognes ta pogne, parce que tu sais, quand ça déroule, ben après ça, t'es sorti de la ligue, puis c'était pas trop compliqué non plus, là.
Tu sais, les joueurs qui étaient souvent sur cette ligue-là, Ligue américaine, Ligue nationale, on disait souvent, oh, c'est pas grave, ils vont pouvoir avoir une belle carrière en Europe. Puis il y a plein d'anciens centres qui ont eu une super carrière en Europe. Je pense à Christian Larrivé, entre autres, David Desharnais, par la suite. Tu sais, ça peut être plaisant aussi. Là, Charles Hudon, il va là-bas, mais malgré tout, puis ce qu'il dit dans la presse, c'est qu'il y a la moitié de sa famille qui aurait aimé ça rester en Europe, tandis que l'autre voulait se rapprocher de l'Amérique du Nord. Il y a cette décision-là à prendre aussi. Puis là, dans son cas, il y a aussi le fait que la Ligue nationale, ça reste quand même la Ligue nationale.
Ben, c'est sûr. Puis c'est une ligue aussi, ben, tu sais, veux pas, c'est là où tu veux jouer, c'est là que c'est le plus le fun, c'est la meilleure ligue au monde. Je pense que, tu sais, Charles, il veut se donner toutes les chances de pouvoir revenir, puis c'est tout à son honneur là, de grinder, d'essayer d'être dans la Ligue américaine. Tu sais, il y a une famille aussi, là, il y a trois enfants, c'est pas facile d'être dans la Ligue américaine avec trois enfants, tu sais, c'est pas aussi beau que ce que le monde peut le penser, t'es toujours dans tes des bagages, tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer, t'es toujours dans l'incertitude, tu sais, c'est pas dans une situation à la Carey Price où tu sais, t'es établi puis t'es le joueur de concession, tu sais, c'est vraiment une autre vie, c'est un aspect qui est vraiment différent là, quand t'es dans les ligues américaines ou même dans la Ligue nationale, mais t'es juste entre les deux là, tu fais souvent le voyage ou tu sais, une année tu vas jouer dans la Ligue nationale, l'année suivante tu vas être entre les deux, fait que ça apporte beaucoup d'incertitude, puis c'est à la longue, ça amène beaucoup d'usure pour les familles et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, surtout quand t'as trois enfants.
Antoine, je veux t'emmener sur quelque chose que j'ai vu quelques secondes avant d'entrer en onde, parce que j'ai vu la manchette sortir tantôt. Il y a un joueur du Canadien qui va avoir une audience disciplinaire, probablement au téléphone, mais quand même, c'est Chris Weidman, défenseur du Canadien, qui, dans la game récente contre les Bruins de Boston, n'a pas été une game facile pour le Canadien, et dans une genre de mêlée, une échauffourée avec un des joueurs des Bruins, Eric Ola, il a donné un coup de tête. Il a carrément donné ce qu'on appelle en anglais un headbutt, mais un coup de tête, et visiblement, au goût de la Ligue nationale, ça passe pas. J'aimerais que tu me parles de comportements qui... Bon, c'est, la Ligue nationale, tu peux te battre de manière réglementée, d'une certaine manière, mais je sais que vous autres, entre les gars, il y a des choses qui passent pas, les coups de tête, les morsures, ce genre de choses-là. Ça arrive-tu souvent qu'il y en a qui font ce genre de gestes de cabochon-là?
Ben, tu les vois, tu sais, souvent, ils se font réprimander. Un coup de tête, c'est pas accepté, c'est dangereux, c'est un geste de joueur de soccer, tu sais, c'est comme... c'est juste pas accepté, puis écoute, moi les gars qui veulent, tu sais, mettons, se battre, ben ils peuvent le faire, tu sais, dans une certaine limite, ils peuvent le faire dans la Ligue nationale. Si t'as besoin de te battre, tu le fais là, mais tu fais pas de coup de cochon, grosso modo, c'est le message, puis c'est comme ça que moi j'ai appris à jouer dans la Ligue nationale. Fait que c'est ce que j'applique dans ma vie, la vie tous les jours,
mais tu sais, même là, quand il y a une certaine tolérance niveau du bâton, tu sais, du fameux coup de Sherwood, des fois, vous vous donnez des petits coups de Sherwood, puis il y a une tolérance entre les joueurs de dire, bon, regarde, c'est pas à cause que tu me donnes un coup de Sherwood que vous m'avez systématiquement engagé le combat, mais y a-tu, genre, à part
ben, tu vois, Fred, là, c'est là qu'il y a la différence.
Ah.
La différence entre l'ancienne Ligue nationale puis la nouvelle Ligue nationale, c'est que les gars s'en permettent plus que ce qu'ils s'en permettaient. Par exemple, quand moi, j'ai commencé, tu donnais un coup de Sherwood dans un crochet, comme on dit, ben ça voulait dire let's go, là, tu sais. Puis c'est ça qui a changé. Maintenant, ça donne un coup de Sherwood, puis écoute, ça se fait surprendre quand ça se fait attraper au collet. T'sais, c'est que il y a cet aspect-là, il y avait cet engagement, le fait de marcher sur la ligne qui était beaucoup plus présent dans les années antérieures.
Je veux t'amener maintenant, Antoine, parce que tu l'as déjà vécu avec plusieurs formations dans ta carrière, là, d'avoir des bons joueurs, une bonne équipe, puis pensait pouvoir aller loin, mais il manquait une pièce, puis une pièce importante, le gardien de but. Les Oilers vivent un petit peu cette situation-là depuis l'arrivée de Connor McDavid. Beaucoup d'espoir dans cette équipe-là. Mais là, rien ne va plus. Bon début de saison, mais après ça, après une blessure à Mike Smith, ben c'est Koskinen qui est devant le but des Oilers. Puis il a fait une déclaration particulière dernièrement en disant, écoutez, là, moi, je peux pas compter de buts. Si on compte pas plus que 2 buts par match, ce sera pas facile, ce sera pas évident. Il y a même certains joueurs de l'organisation qui ont dit... Oui? Oui? Est-ce que tu es là?
Je pense qu'on est en train de perdre la communication avec Antoine. Est-ce que tu veux que je le... Antoine, est-ce que tu es là? Il est pas loin, mais...
Antoine, est-ce que tu es là?
Es-tu en train de se refaire tester ou...
Écoute, on va...
Allô?
Oui, salut.
Excuse-moi, ça a coupé.
Est-ce que tu as entendu le début, dans le fond, sur la question des Oilers, quand Connor McDavid est arrivé? On se disait, c'est sûr qu'ils vont gagner, Dreisaitl, ça va bien, tout ça, mais manque un gardien. Puis là, Koskinen, le gardien actuel des Oilers, a dit publiquement, je peux pas scorer de but. Si on compte pas plus que 2 buts par match, c'est sûr qu'on s'en sortira pas. Il y a même des joueurs qui, publiquement, ont dit, ça va nous prendre un gardien de premier plan pour aller plus loin. C'est important, le gardien de but. Puis quand c'est rendu à ce niveau-là, quand c'est rendu une discorde publique, rien ne va plus.
Ben, c'est officiel, puis c'est tellement dur de trouver un bon gardien qui est capable de faire, de livrer la marchandise année après année. Écoute, il y a des équipes qui c'est le dernier morceau qu'ils vont chercher. Écoute, quand je pense à Calgary, qui n'est pas trop loin d'Edmonton, ils sont allés chercher Jacob Markstrom, même si c'était un gardien de 32 ans plutôt, il est arrivé, puis il était c'est la pièce qui leur manquait pour passer à un autre niveau. Puis tu le vois, cette année, il y a une grosse saison. Puis ça permet de passer, comme je disais, à un autre niveau, puis d'espérer aller loin en série. Puis c'est dur d'avoir des bons gardiens. Tu sais, tout le monde en cherche. Tout le monde cherche des bons défenseurs, tout le monde cherche des bons gardiens. Et puis après, avec le reste, t'es toujours capable de faire la différence. Mais c'est plus difficile. Puis écoute, je l'ai vécu un petit peu avec les Stars.
Mais oui.
Écoute, on avait toute une équipe. Puis, Carey Lehtonen, c'était tout un gardien de but. Mais quand on est arrivé à un moment donné, névralgique, où il fallait qu'on gagne, puis qu'on mise vraiment sur lui. Puis je dis ça, tu sais, c'est tout un gardien, c'est un ami aussi. Mais je me souviens qu'il était vraiment nerveux, puis que ça l'empêchait de dormir, puis ça fait en sorte que ça avait affecté ses performances. Puis, écoute, on s'était fait éliminer en deuxième ronde des séries cette année-là. Puis, écoute, je me souviens que, tu sais, ça lui était tombé comme... quand c'était fini, ben tu sais, on dirait que ça l'avait un peu soulagé, tout ça, mais c'était difficile de jouer et puis d'amener son équipe à un autre niveau. Puis écoute,
ça doit être infernal. Ça doit être infernal. Quand t'es pogné dans cette spirale-là, comme celui des Oilers actuellement qui sort en disant, écoutez, moi, je compte pas de but, là, je sais plus quoi faire de plus. Son pourcentage d'efficacité pas très, très fort. Puis même plus localement, je me souviens de la grosse année des Saguenayens avec Alexandre Vincent. Richard Martel, t'es pas trop sûr. T'es allé chercher un gardien d'expérience pour l'épauler. Ça y a peut-être même joué dans la tête rendu là. Puis on connaît la suite de l'histoire. La pression qui tombe sur leurs épaules, sans dire que c'est la même qu'un lanceur au baseball, ça peut même être comparable. Là.
Non, c'est comparable. Puis dès que cette spirale-là commence, c'est vraiment dur de l'arrêter. Moi, je l'ai déjà vécu aussi à un moment donné. J'arrivais plus à dormir en série. Puis il faut que tu sois capable de te reposer. Puis si tu n'es pas capable de te reposer, tu es toujours en mode attaque. Puis, tu sais, tu peux pas être en mode attaque 24 heures sur 24. Ça fait en sorte que tu arrives au match. Écoute, moi, je me souviens, c'est difficile à gérer, puis t'évolues dans ta carrière aussi. À un moment donné, t'essaies toujours de t'améliorer, de trouver des solutions. Puis écoute, moi, ma solution, c'était l'année suivante. Il fallait que je parle à un psychologue sportif pour que ça m'aide à gérer, canaliser toute cette énergie-là, puis de la transférer sur la glace. Mais comme tu dis, quand ça commence à te jouer dans la tête, puis que la spirale décolle, c'est jamais bon signe.
Ça, c'est une histoire de fans de hockey puis de gérants d'estrade de se dire que Connor McDavid pourrait aller voir son directeur général puis dire là, tu vas me chercher un gardien parce que sinon je reste pas ici.
Ben, tu sais, encore une fois, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais ils sont pas tous disponibles. Un gardien de premier plan, c'est pas disponible. Généralement, les meilleurs coups, tu sais, puis c'est un directeur général qui m'avait dit ça par le passé. Il me disait les meilleurs coups sont l'été. L'été, c'est là que tu as le plus de marge de manœuvre. C'est là que tu peux déplacer de la masse salariale plus facilement. Tu as des joueurs qui leur contrat achève. On dirait que tu peux construire ton équipe plus facilement. Par exemple, cet été, Marc-André Fleury, il a changé d'adresse. Écoute, c'est rare que tu vois un gardien de premier plan qui vient de gagner le trophée Vézina, changer d'adresse, puis s'est fait échanger pour pas grand-chose. Si tu t'es changé Marc-André Fleury en ce moment, écoute, ça aurait, son prix augmenterait, tu sais, ça serait vraiment différent, comme prix que ce qu'ils ont payé à Chicago. Même chose pour Colorado, ils ont échangé un choix de première ronde seulement pour Dorsey Kemper, qui était vraiment connu une grosse saison ici en Arizona l'année passée. Puis écoute, ils l'ont échangé pour payer un choix de première ronde, puis un joueur prometteur, mais qui fait pas passer notre alignement en ce moment. Mais si tu faisais le même échange en ce moment avec les équipes qui font la course aux séries, ben c'est plus un choix de première ronde, ça coûterait peut-être deux choix de première ronde puis deux prospects ou quelque chose comme ça. Donc c'est les meilleurs coups, ça se fait l'été, puis ça va être difficile pour les Oilers si tu penses qu'ils vont aller chercher un gardien, ça va être difficile.
Antoine, il y a une drôle de rencontre virtuelle qui s'organise dans la Ligue nationale aujourd'hui avec Gary Bettman et également, entre autres, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, qui a écopé aussi de la responsabilité d'être le ministre, entre parenthèses, des Nordiques. Ici, tu comprends qu'à chaque fois qu'on prononce le mot nordique au Québec, on se demande si cette fois-là sera la bonne, mais on s'est fait faire le coup avec le Kraken de Seattle, avec également les Golden Knights de Vegas. Honnêtement, là, t'es un joueur actif, tu rencontres plein de gens qui sont dans la game pour de vrai. T'entends-tu parler de ça, du buzz de peut-être avoir les Nordiques, ou c'est un fantasme que juste les gens de Québec ont?
C'est juste un fantasme que les gens du Québec ont, puis que moi j'aimerais aussi, mais écoute, ça arrivera pas. Écoute, je le vois pas comment ça peut arriver. Écoute, j'en parlais pas plus tard que cette semaine avec un de mes coéquipiers, puis on se disait que je le vois pas comment ils vont être capables de pouvoir vendre cette idée-là. Déjà qu'on a déjà 32 équipes. En Arizona, l'équipe, malgré la situation qui est un petit peu problématique au niveau de l'aréna, c'est tellement une grosse ville que la Ligue nationale veut vraiment pas déménager cette équipe-là. Après ça, peut-être la Caroline, mais encore là, c'est compliqué. Mais on parlait vraiment, tu sais, d'une autre hypothèse, c'est d'avoir une ligue avec plus d'équipes, mais avec des équipes en Europe. Puis je trouve que la Ligue nationale, c'est plus vers cette optique-là qui devrait pousser, puis vraiment avoir une division européenne. Puis c'est là qu'au niveau d'une business, tu peux vraiment avoir de l'expansion, puis tu deviens un sport international. Puis c'est très présent en Europe, le hockey, puis ça serait sûr que ça serait une réussite. Mais maintenant, ça prend, comme on dirait, les bases pour faire ce move-là pour de la Ligue. Mais écoute, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va le voir de notre vivant, que la Ligue va avoir des équipes en Europe.
Ah ouais, donc il y a plus de chances d'avoir, exemple, une NHL Europe avec une équipe, exemple, à Londres ou un truc du genre, que de ravoir une équipe à Québec, selon toi, dans tes pronostics?
Ben, moi, je pense que ça, d'un niveau stratégique pour la Ligue nationale, ça serait plus intéressant. Maintenant, tu sais, en tant que Québécois, j'aimerais ça que l'équipe soit à Québec. Sûr. Ça serait bien plus excitant. Ça serait facile. On a un beau Colisée qui est tout neuf, puis qu'il y a juste les remparts qui jouent dedans. Puis c'est un petit peu, c'est plate un petit peu.
C'est du gaspillage.
Écoute, je pense que pas du gaspillage, parce que le Québec avait besoin d'une nouvelle infrastructure, puis pour avoir joué au Colisée Pepsi, à un moment donné, ça commençait à faire dur un petit peu, là. Mais ça fait en sorte que tu peux avoir des événements d'envergure à Québec, bien que ce ne soit pas des événements de la Ligue nationale. Ça, c'est notre débat, mais selon moi, c'est plus vers cette optique-là que la Ligue devrait faire pour essayer de... moi, je suis en tant que joueur, je fais partie de l'association des joueurs. T'sais, on veut toujours que la Ligue augmente les revenus pour que ça ait une incidence sur les joueurs, sur le salaire des joueurs. Puis je pense que stratégiquement, ça serait le jeu à faire.
Plus de monde, plus d'argent, puis c'est le nerf de la guerre. Antoine, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. À bientôt. Bye-bye.
À la prochaine, Antoine Roussel pour la chronique Ligue nationale.
La chronique d'Antoine Roussel vous a été présentée par les cliniques Interphysio. 6 succursales dans la région pour tous vos besoins. Maintenant, rue des Champs-Élysées, Chicoutimi, interphysio.ca.
Pour nous joindre via messagerie texte et téléphone, 543-5131, midi pile, KIT 95-7, Saguenay.